Fragment d'art sur Radio Gameuse avec nous.
Aux Imaginales 2026, le mot à l'honneur est l'alter ego. Et dans la bulle du livre, je me promène et je suis attirée par un livre en particulier, une saga même, les Chroniques de Germania.
Bonjour, Patrick Poget, je suis donc écrivain, édité aux éditions de l'Alchimiste. Mon premier livre et ma première quadrilogie, c'est donc la saga de Germania en 4 volumes, que j'ai écrit selon certaines personnes en un temps record, puisqu'en 14 mois j'ai sorti les 4 volumes. C'était comme un appel, quelque chose qui devait sortir. Et donc ça traite d'une possibilité de « et si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre ?»« Et si on se projetait 160 ans plus tard dans une société qui ne va pas si bien que ça ?» et de voir ce qui s'y passe.
Donc les Chroniques de Germania, c'est une uchronie, et une uchronie, c'est un alter ego de ce qu'aurait pu être notre réalité, comme vous l'avez dit, et si. Et c'est un angle, que se serait-il passé si l'Allemagne nazie avait gagné? Qu'est-ce qui vous a poussé justement à choisir cet angle et ce fragment historique?
Je suis un grand passionné d'histoire. Et j'ai chez moi environ 300 livres qui se rapportent sur une période de 1870 à 1950 à peu près. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Je suis, comme j'aime à le dire, je ne saurais pas vous dire combien il y a eu de chars à la bataille de Koursk. Par contre, je pourrais vous parler pendant des heures des problèmes mentaux qu'ont eu les SS quand ils assassinaient les Juifs au bord des fosses, ou des gens qui encadraient l'usine de mort d'Auschwitz. Par exemple, toute lecture, c'est basé sur une question. Et pour moi, quand je me pose une question, il faut que je trouve une réponse. Et la réponse, elle est chez les historiens. Donc je veille déjà à savoir qui a écrit le livre, parce que c'est toujours important de savoir qui a écrit le livre. Et ensuite, je vais chercher la réponse. Germania, ça répond à une question. Est-ce que le Reich millénaire voulu par Adolf Hitler aurait pu vraiment arriver, aurait pu se faire? La réponse dans Germania est non. Puisqu'on a une société qui est affaiblie, une société qui n'a pas su maintenir son niveau de contrôle. Une dictature doit garder le contrôle, doit imposer des choses par la force bien souvent. Là, dans Germania, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, on va suivre en fait, un flic qui, lui, va se rendre compte que ça part complètement de travers. Donc, on va suivre cette société. Et l'idée, c'est quoi? C'est rappeler, au travers d'un roman fictif, que tout le monde pourra dire « Oh, mais... » C'est pas arrivé, bien heureusement, et c'est soulageant, mais n'empêche, dans ce livre, vous allez avoir plein de références historiques qui vont se greffer, que vous n'aurez peut-être pas, mais que vous retiendrez, parce qu'avec un peu de chance, vous allez aimer le livre, et c'est un peu pour ça que je l'ai fait, pour rappeler aux gens leur histoire, et ne pas oublier que pour faire un pas en avant, il faut savoir où est le premier pas. C'est savoir où on va, c'est savoir d'où on vient.
Même... les uchronies et les dystopies soulèvent des questions sur, comme vous l'avez dit, savoir d'où on vient pour savoir où on va. Ce sont, je ne peux pas dire des débats qui reviennent, mais des questionnements qui sont importants à se poser très régulièrement.
Très régulièrement et je dirais de plus en plus maintenant. Depuis quelques années, on a tout un tas de gens qui, sous prétexte qu'ils passent à la télé, qu'ils ont des belles cravates, qui passent bien, qui peuvent être, ils peuvent être très intellectuels, ils peuvent être plein de connaissances, mais il n'empêche qu'ils vont quand même les détourner. On a un politicien français, Éric Zemmour, qui a quand même dit un jour que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs durant l'occupation. On a des gens qui sont négationnistes. On a des gens qui refusent de parler des horreurs qui se sont passées durant la Shoah, ou voire qui ne veulent même plus en parler, qui veulent effacer ça de nos livres d'histoire. Dans l'autre sens, on pourrait aussi parler des horreurs qui ont été faites par les résistants, ou sur une période où je suis un peu moins calé, sur la guerre d'Algérie et les horreurs qui ont été faites à ce moment. Je pense qu'aujourd'hui, on a une fâcheuse tendance à corriger le passé pour se faire un futur où on est un peu mieux. Récemment, je vais prendre cette anecdote, récemment j'ai entendu à la radio un des représentants du Rassemblement National à qui on disait « Oui, mais monsieur, n'oubliez pas quand même, votre parti a été créé par un ex-Waffen-SS et un homme qui avait quand même pas mal de choses à se reprocher durant la guerre d'Algérie. » Et là, il a dit « Oui, mais c'est bon, ça suffit ce genre de discours, vous n'allez quand même pas reprocher au Parti communiste d'avoir eu Staline et d'autres horreurs. » On est sur une banalisation de tout ce qui a été fait. On est sur une banalisation du discours. Derrière, on a tout un tas de gens qui, parce qu'aujourd'hui, se renseigner, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux, c'est compliqué de trouver la vérité. Historique, je parle des faits. Parce que tout le monde les détourne et tout le monde les amène un peu comme il veut. Et voilà, ça, c'est pas bien. Ça, c'est nul. Aujourd'hui, on a plein de cas où les propos sont détournés. Moi, il m'arrive de me faire des rencontres avec des gens, je fais des conférences où je parle de la manipulation de l'opinion, je parle d'endoctrinement de la jeunesse. J'ai écrit un livre sur l'endoctrinement de la jeunesse. Aujourd'hui, les gens ne se rendent même pas compte des outils qu'ils ont, qui sont utilisés contre eux. On peut parler, de tous les termes de rhétorique possibles et imaginables. La rhétorique, c'est hyper intéressant quand on s'y intéresse. C'est un outil de communication pour convaincre. Vous avez des choses cognitives comme l'effet de halo. Demandez-vous pourquoi tous les présidents français de la Ve République ont un chien. Demandez-vous pourquoi, quand vous voyez quelqu'un avec un petit animal dans les mains, on le trouve plus sympathique tout d'un coup. Et ça détourne l'image et le message qu'il porte. Donc je pense qu'il est important de remettre les choses dans l'ordre, parce qu'aujourd'hui on va parler de cohérence, et on va parler de cohérence par rapport aux valeurs qui sont portées. Moi, il y a un truc qui me rend fou, que ce soit dans mon métier ou dans la vie, c'est l'incohérence. Quand on prétend quelque chose, on y va au bout. On a ses valeurs, on les porte. Ne pas les porter, c'est trahir sa parole, sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux, c'est tellement facile de se faire paraître pour un gentil alors qu'on ne l'est pas du tout.
Et pourtant, Internet n'oublie jamais, beaucoup de captures d'écran refont surface.
Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a heureusement certains médias qui mettent le paquet. Les citer, moi je sais que mon habitude à moi, c'est par rapport à une nouvelle, à quelque chose que j'entends, c'est d'écouter un maximum de médias qui en parlent. Je vais aller chercher même ceux que j'aime pas. Une nouvelle qui tombe chez Valeurs Actuelles, vous allez l'écouter, vous allez avoir la version de l'Humanité, vous allez chercher la version à Libération, vous allez chercher dans les médias centralistes, un peu comme Le Monde ou France Info, où on dit un peu ils sont généraux. Et puis après, pour finir, histoire de bien se faire mal, vous allez écouter Monsieur Pro. Enfin, Monsieur Pro, pour moi, c'est pas un journaliste. Dans l'idée, il ne fait pas du journalisme, il fait de l'à peu près. Et donc, il cherche à pousser les gens dans un axe de pensée qui est le sien, en détournant les vérités, en ne vérifiant pas ce qu'il dit. Donc, à partir de là, bien heureusement, on a des médias qui encore font le travail. C'est-à-dire, ils vont chercher les informations et ils contredisent haut et fort. Et pour autant, vous trouverez beaucoup plus de vidéos qui montrent ces gens qui transforment la réalité plutôt que de vidéos qui démontrent qu'ils ont tort. Et c'est là où il faut se poser la question de la réalité des réseaux, de leur importance et de l'importance surtout de l'esprit critique qu'il faut que tous on récupère pour prendre de la distance par rapport à une information et aller chercher sa cohérence réelle. Les faits sont importants. Je prendrai comme exemple la triste affaire du membre de l'ultra-droite qui s'est fait tuer à Lyon. Moi, j'étais à Lyon, je suis de la région lyonnaise. Tout de suite, c'était « Ah là là, le pauvre gars, il a été assassiné, c'est triste ». Et au final, on se rend compte que les donneuses d'alerte, donc le mouvement Némésis, le supposé groupe féministe du RN, laissez-moi rire s'il vous plaît, renseignez-vous un peu dessus, je ne m'étendrai pas plus. Et en fait, elle a totalement imaginé la scène, c'est-à-dire qu'elle n'était même pas sur place, c'était même pas ce qui s'est passé. Et moi, je déplore la mort de qui que ce soit, parce que de toute façon, je suis humaniste, moi, je suis pacifiste et je souhaite que le meilleur au monde. Mais je trouve quand même triste qu'on en arrive là à un tel détournement d'informations qui fait que ça tire à balles réelles sur tout le monde, alors que ce tout le monde, bah, il est absolument coupable de rien. Les faits sont importants. Alors en France, ça prend du temps à mettre en place, il faut que la justice fasse son travail, on a la présomption d'innocence qui parfois a bon dos. Mais je sais que c'est long, mais parfois il faut faire l'effort de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Moi, c'est quelque chose que je dis dans les conférences, c'est les émotions, c'est l'ennemi de la raison. On peut être pris à cœur par un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Je pourrais parler de l'école que j'ai découverte récemment. Mais il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions. Il faut garder la raison, la tête froide. Parce que si vous n'avez pas la tête froide, si vous réagissez à l'émotion, par l'émotion, les gens en face, ils vont vous contrer et vous aurez jamais le droit d'écoute, jamais le droit, jamais raison en fait. Vous n'aurez jamais raison face à eux.
Les chroniques de Germania, parce qu'on va y revenir, c'est une réalité en crise, ou du moins une uchronie, c'est une réalité en crise qui s'est déroulée différemment. Et pourtant, même si l'Allemagne nazie aujourd'hui n'est plus, nous ne sommes, je suppose, pas à l'abri que ce soit demain ou dans 1000 ans, nous ne sommes pas à l'abri d'une crise politique qui pourrait renverser, même mettre en question nos droits. Sans citer Simone Veil qui disait qu'il suffirait d'une crise politique pour que nos droits en tant que femmes puissent être remis en question. C'est important de cultiver son esprit critique pour, je ne peux pas forcément dire parer à ce qui pourrait arriver, mais au moins en avoir conscience.
Avoir conscience, je suis très content que vous citiez Simone Veil, qui est une femme que je respecte au plus haut point. J'ai eu la chance de faire une conférence sur la place de la femme dans les dictatures, puisque je suis un fervent défenseur de la place de la femme. Alors après, à mon auguste mesure, et comme je suis un homme, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, j'essaye à ma mesure. Et je montre, en fait, les femmes aujourd'hui, elles ont un droit, c'est la moitié de l'humanité. Et je dirais, entre guillemets, alors je ne vais pas dire que c'est la plus importante, mais c'est celle qui porte la vie. Je veux dire, les hommes ont voulu dominer les femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles donnent la vie. Et voilà, à tort, hein, on est bien d'accord, hein, ça fait des milliers d'années que les femmes se font dominer, entre guillemets, par l'homme, et ce n'est pas fini, puisque dans certains pays, ça continue. Voilà, moi je veux juste parler de cette école, je vais revenir dessus parce que je pense que c'est le bon moment. J'ai fait récemment une conférence avec des gens assez politisés et très impliqués dans la vie active dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse. Et j'ai rencontré des femmes qui sont venues me voir pour me parler d'une école intégriste catholique à Châtillon-sur-Chalaronne, où on apprend aux jeunes filles, donc c'est du collège, hein, donc c'est 10-14 ans, on leur apprend à coudre, on leur apprend à utiliser une machine à coudre et à faire à manger, à s'occuper d'un foyer. Pourquoi ? Parce qu'elles doivent s'occuper de leurs futurs époux, parce qu'il faut s'occuper de l'homme comme il faut et que la place de la femme, c'est à la maison, à s'occuper des gosses, du foyer. C'est une hérésie, hein, soyons clairs. Ceux qui connaissent la servante écarlate, on est dedans. Elles sont avec leur petite jupe rouge, leur petit chemisier blanc, avec le petit foulard rouge, et elles ont l'air tellement heureuses. Et vous voyez ça, c'est juste triste à pleurer. On les conditionne, on les endoctrine. Et face à ça, j'ai eu des femmes courageuses qui, voyant ça, se sont dit « mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ». Et en fait, dans la conférence, je parle de l'effet de halo dont j'ai parlé tout à l'heure, en gros qui consiste à prendre un effet positif et pour détourner en fait un message négatif, pour ne pas citer les chats de Marine Le Pen. Je leur ai dit faites l'inverse, on va faire un test, et je leur ai mis entre les mains le guide de la parfaite épouse qui a été écrit par la chef de la section féminine de la Phalange durant Franco, qui pendant 35 ans a éduqué les femmes pour qu'elles restent à leur place en tant que servantes de l'homme. À cette époque-là, elles n'avaient aucun droit, ni à la possession, ni à la liberté. Elles ont dû attendre 30 ans pour obtenir un droit de divorce où elles n'étaient pas obligées soit de retourner chez leur père, soit d'aller au couvent. Et en fait, sur 14 pages, vous avez 14 slides, en gros, où on va vous présenter. Voilà, il faut être silencieuse parce que le pauvre... il faut pas lui parler de ses soucis parce que lui il en a plein déjà. Bref, une hérésie complète, mais qui était dans un phénomène de dictature. Et là on est en France, République démocratique française, liberté, égalité, fraternité, et on est sous prétexte d'un extrémisme catholique, parce que je connais des catholiques qui sont adorables, d'une gentillesse folle, et qui pour eux le terme tolérance et ouverture d'esprit est hyper important. Donc là, on est sur une vision d'extrémisme. Et voilà, il faut lutter contre. C'est pas possible. On peut pas laisser faire ça. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils sont les premiers à dire l'intégrisme islamique, il faut être contre et tout ça. Moi, je suis contre l'extrémisme, donc allons-y. Mais l'extrémisme catholique, on fait quoi? On bouge pas? Si, bougeons. Alors, pour info, il y a une pétition encore en ligne. Il y a eu un article sur Mediapart. C'est la commune de Châtillon, sur Chalaronne, dans l'Ain. Voilà, il faut y aller, il faut signer, il faut se bouger, il ne faut pas que ça arrive. Voilà.
Parce que pour rappel, La Servante écarlate est un roman écrit par Margaret Atwood qui a été publié, si je ne me trompe pas, en 1987. Une dystopie effrayante en tant que femme, en tout cas pour moi. On est en train de voir que oui, les dystopies, on n'est pas à l'abri que ça puisse arriver.
La dystopie, comme l'Uchronie, donc le changement de l'histoire, fait partie de la science-fiction. La science-fiction, depuis tout le temps, montre des futurs possibles. Étonnamment, ces futurs qui sont projetés à 80, 100, 200 ans, on les rencontre là, maintenant. C'est-à-dire que vous avez des gens, moi je vais prendre un de mes livres de référence, qui est « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley, où on dépeint une société où on a complètement rendu scientifique la naissance des enfants. On les programme à l'avance, on sait ce qu'ils vont être, les parents rencontrent un médecin, ils font leur commande, et puis ils ont l'enfant derrière. Et en fait, on se rend compte, ce système-là qui est complètement aberrant, mettons-le en parallèle avec aujourd'hui. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une société américaine qui veut créer une usine utérus pour aider à la création artificielle d'enfants à partir de sperme masculin. Mais comme le gène commence à être contrôlé, ce qu'ils veulent à terme, c'est réussir à créer les enfants comme on le veut. Sous prétexte de dire « non, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour enlever les maladies, tout ça, machin », c'est louable, pourquoi pas. Mais non, on va en faire un plus fort, on va en faire un plus grand, et puis pourquoi pas blond les yeux bleus, et puis on revient à une éthique complètement nazie de la chose. Ça se passe aux États-Unis sous Trump. Moi, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Le problème, c'est que toutes ces petites choses, cette école, cette usine, ça passe sous silence complet. Parce qu'aujourd'hui, on a des conflits partout. Entre parenthèses, on ne parle plus de la bande de Gaza. La bande de Gaza et ces millions de personnes qui crèvent de faim et qui vivent dans des ruines, on n'en parle plus. On a plein de conflits actuels et à venir. Tout ça, ça efface en fait le fait qu'on puisse dire « attention, regardez, là, il y a des choses qui se passent ». Et elles se passent sous notre nez. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui s'apprêtent à voter au Rassemblement national sans savoir ce que le Rassemblement national a voté au niveau européen, notamment. Moi, je vous invite à vous renseigner. Moi, je ne voterai pas Rassemblement national, c'est hors de question. Et je ne cesserai pas de dire que, pour moi, c'est la pire des ignominies. Et je ne fuirai pas le pays s'ils sont élus. La France a montré qu'elle était capable de faire acte de résistance. J'en serai.
Dystopie, uchronie, des alter-ego de nos réalités qui ne sont peut-être pas forcément aussi éloignées de ce qu'on pense. C'est important d'avoir conscience de leur existence, mais surtout de ne pas se fondre en eux. Patrick, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin?
L'humain prévaut, quoi qu'il en soit. Arrêtez de croire que la solution facile, elle est sur un téléphone ou elle est sur un ordinateur. Ouvrez les yeux. La solution, c'est nous. c'est les hommes, les femmes. Alors, quand je parle d'hommes, je mets un grand H, donc les femmes sont dedans. Je pourrais dire les femmes, ça ne me dérangerait pas, que les choses soient claires. Hein. L'humanité prévaut. On est tous égaux, on a tous aspiration à être heureux, à vivre des moments de joie, à avoir une famille, pouvoir vivre honnêtement. Au-dessus de nous, on a tout un tas de gens qui croient que l'argent prédomine, que la religion prédomine, que leur opinion prédomine. Si nous tous, à la base, on se mettait tous coude à coude et qu'on se regardait sans se juger, sans regarder notre couleur de peau, sans regarder notre origine, sans regarder nos croyances, que juste qu'on se respectait les uns les autres, eh ben, croyez-moi, on leur montrerait qu'on est bien plus grand et bien plus fort qu'eux. Soyez vous-même, l'humain prévaut.
Merci Patrick Paget.
À votre service.
Fragment d'air sur Radio Gémeaux avec nous.